Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Virginia Crespo.
Nous avons le plaisir de recevoir à Canal Académie la présidente de la Conférence nationale des Académies des sciences, lettres et arts, la CNA, Jeanne-Marie de Marolles. Nous recevons également le vice-président de cette CNA, en la personne de M. François Brault. M. Brault qui représente aussi aujourd'hui l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts, donc de Bordeaux. Bonjour chère madame, bonjour cher monsieur et bienvenue à Canal Académie. Nos auditeurs pourront d'ailleurs se reporter à une émission précédente que nous avions enregistrée avec vous, Jeanne-Marie de Marolles, vous qui êtes actuellement la première femme présidente de cette CNA, de cette Conférence nationale des académies, pour un mandat, nous aviez-vous dit, de 2 ans, qui a commencé donc en 2010 et qui se terminera fin de cette année, en octobre prochain. On n'est pas encore à l'heure des bilans, Jeanne-Marie de Marolles ? Oui ? Non ? Rappelez-nous, la CNA à quel âge ?
Eh bien, la CNA a reçu son statut officiel en 1995, donc c'est une fédération beaucoup plus jeune que le sont les académies de province qui remontent au XVIIIe siècle, et elle œuvre pour donner plus de visibilité à chaque académie, et aussi elle permet, grâce au soutien indéfectible des chanceliers successifs de l'Institut et en ce moment l'appui de M. le chancelier Gabriel de Breuil. Donc cela permet à la CNA de tenir tous les 2 ans un colloque à l'Institut.
Alors combien compte-t-on en France d'académies des sciences, lettres et arts ?
Bien, à vrai dire, je pense qu'on doit en compter entre 40 et 50, étant donné que l'intitulé Académie n'est absolument pas un label protégé. Mais il y a seulement 31 académies des sciences, arts et lettres, ou des sciences, lettres et arts, qui font partie de la Conférence nationale des académies en raison des critères d'admission. Il est vraisemblable qu'une 32e académie entrera au mois d'octobre 2012 à l'occasion du colloque qui se tient à Bordeaux.
Mais toutes ces académies adhèrent donc à la CNA ?
Ces académies adhèrent à la CNA. Qu'est-ce que cela veut dire adhérer à la CNA ? Cela veut dire présenter un dossier d'admission, remplir essentiellement les critères suivants, une fondation ancienne, c'est-à-dire généralement au XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, critères de pluridisciplinarité, donc c'est la raison pour laquelle les académies s'intitulent sciences, lettres et arts, des publications régulières, donc toutes ces académies ont des mémoires ou des bulletins qui généralement comptent 2 siècles et demi de publications, et puis enfin un recrutement par élection par des pairs.
François Brault, en tant que vice-président de cette CNA, je peux vous demander, la CNA fédère, rassemble ces différentes académies ? Quel est l'objectif essentiel de la CNA ?
L'objectif de la CNA est effectivement d'harmoniser l'action des diverses académies qui en sont membres au niveau national. Mais je tiens à préciser que ces académies conservent tout de même une autonomie très importante. Elles permettent donc ces réunions nationales qui ont lieu chaque année, une année, les années impaires à l'Institut, les années paires en province, permettent de faire le point, d'échanger et de mieux se connaître également.
Oui, le point de vue de la présidente par rapport à ces rassemblements annuels ?
Ces rassemblements annuels permettent effectivement, comme vient de le dire M. Brault, d'échanger sur la façon dont chaque académie, dans son propre territoire, assure sa visibilité, et puis aussi cela permet de donner, par l'intermédiaire de ces rencontres annuelles, une certaine visibilité aussi à l'ensemble des académies, étant donné que les colloques sont toujours des colloques scientifiques de haut niveau.
Oui, mais la fonction tout au cours de l'année, c'est une fonction de préparation de ce rassemblement qu'exerce la CNA ou il y a d'autres opérations dans lesquelles elle s'investit ?
À vrai dire, donc, je peux vous parler à partir de mon expérience personnelle. Donc, le bureau de la CNA, lorsqu'il a été élu, la première année a essentiellement pour fonction de préparer le rassemblement annuel à Paris. Et la deuxième année, c'est essentiellement la fonction qui incombe à la présidente, c'est de rencontrer les académies qui sont membres de la CNA pour éventuellement les aider à préparer un colloque ultérieur, pour voir aussi comment elles envisagent leur propre avenir, pour les inciter aussi, je crois que c'est très important maintenant, à utiliser de plus en plus les nouvelles technologies de communication. Et donc, de fait, la plupart des académies auxquelles j'ai rendu visite ont un site internet, mais un certain nombre d'entre elles en sont encore dépourvues, ce qui, à terme, risque de poser des problèmes.
Alors, comment s'opèrent et se vivent les relations, puisque nous parlons en ce moment de communication, entre ces différentes académies des quatre coins de la France, avec les cinq académies réunies ici à Paris à l'Institut de France? Vous évoquiez le chancelier de Breuil tout à l'heure et sa participation à l'organisation de la CNA de l'année dernière. Parlez-nous de cela.
L'intérêt de M. le chancelier de Breuil est manifeste et nous lui en sommes très reconnaissants. Et il convient aussi de préciser que la CNA a pour président d'honneur un membre de l'Institut. Depuis l'année dernière, ce membre de l'Institut est M. Bernard Bourgeois, qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques et qui s'investit avec beaucoup d'intérêt dans la vie de la CNA, mais tout particulièrement dans les rapports entre la CNA et l'Institut.
Alors justement, au cours de votre premier éditorial, Jeanne-Marie de Marolles, vous avez pu écrire « Le chancelier Édouard Bonnefous, le chancelier Pierre Messmer, trop tôt disparus et qui ont apporté de leur énergie et de leur compréhension au développement de la CNA. Nous adressons également à Monsieur le chancelier Gabriel de Breuil l'expression de notre profonde reconnaissance pour l'intérêt qu'il porte à la Conférence nationale des académies, placée sous l'égide de l'Institut, et à son prochain colloque à la découverte de la Terre, qui s'est donc tenu les 7 et 8 octobre derniers de l'année 2011. Alors donc, à la découverte de la Terre, faites-nous un rapide descriptif, puisque nous avions eu la chance de vous avoir devant nos micros avant que cet événement n'ait lieu, et là, un petit bilan par rapport à ce colloque.
Eh bien, il me semble que ce colloque a été tout à fait réussi dans la mesure où il y a eu autour de 200 auditeurs, aussi bien le vendredi après-midi que le samedi matin. Il a été réussi aussi, me semble-t-il, dans la mesure où M. Bernard Bourgeois, qui prenait ses fonctions de président d'honneur, a assisté à l'ensemble du colloque et a manifesté tout l'intérêt qu'il avait pris aux communications qui étaient de très bon niveau. Et nous avons eu aussi, étant donné que le thème était scientifique, l'Académie des sciences était présente en la personne de son vice-président en octobre 2011, qui était M. Philippe Taquet.
Alors justement, un petit moment d'histoire. Vous rappeliez justement dans cet éditorial de 2011 que ce thème à la découverte de la Terre proposé par le chancelier Gabriel de Breuil avait suscité un profond intérêt. Il avait particulièrement attiré l'attention des confrères scientifiques qui, écrivez-vous, reconnaissons-le, avaient tenu jusqu'à présent moins de place dans nos réunions. Et pourtant, rappelez-vous, à l'origine, l'orientation de nos compagnies avait été délibérément tournée vers les sciences. Alors, un petit moment d'histoire par rapport à l'intitulé même de ces académies, Académie des sciences. Ce moment d'histoire avec vous, François Brault.
La caractéristique de nos académies qui sont membres de la Conférence nationale des académies, c'est la pluridisciplinarité. Et comme le nom l'indique, elle porte cette pluridisciplinarité, porte sur les sciences, les lettres et les arts. Et à Bordeaux, comme je pense que dans la majorité des académies nationales, les sciences sont souvent les défavorisées, si l'on met à part toutefois la science médicale qui est habituellement bien représentée, du moins à Bordeaux. Ce souci d'établir un équilibre entre ces différentes disciplines nous paraît important parce que l'académie, à la différence d'académie spécialisée, se veut justement échanger entre des personnes d'origine très différente, d'origine très variée, qui mettent en commun leur expérience, leur formation, leur culture. Et c'est un impératif, me paraît-il, important que celui d'éveiller à cet équilibre, qui n'est d'ailleurs, je dois l'avouer, pour Bordeaux, pas tout à fait atteint.
Donc c'est un souci d'équilibrage de quotas scientifiques, artistiques, littéraires.
C'est un souci d'équilibrage, mais je ne reprends pas à mon compte le terme quota, parce que il n'est pas dans, je parle des statuts de notre académie, il n'est pas réservé un quota très précis de membres de certaines spécialités. C'est à nous, empiriquement, si je puis dire, en fonction, j'allais dire des circonstances, enfin, qui proposent certains candidats à d'autres, que nous essayons d'établir cet équilibre qui, à la limite, en raison de la méthode adoptée, n'est jamais atteint.
Mais ce sont des consignes, ce sont des objectifs d'ordre général.
Oui, plutôt, oui.
Et qui font partie des statuts de chaque académie ?
Ah, de chaque académie, je pense que ces statuts peuvent être variés et peuvent être différents. J'ai pris l'exemple de celle de Bordeaux parce que, vous le supposez, c'est celle que je connais le mieux.
Et que vous représentez aujourd'hui devant ouais. Les micros de Canal Académie. Mais est-ce que, par exemple, dans un coin de la France, il y aura une académie plus spécialisée dans les lettres et dont tous les membres auront cette spécialisation d'études ou de profession ? Comment est-ce que ça se passe et quelle est la déontologie de la chose ?
Non, ce n'est pas une question de déontologie. Disons que c'est une évolution qui s'est faite, je ne dirais pas tout naturellement, mais enfin qui s'est faite lentement et dans une certaine mesure insidieusement. Le point de départ, c'est donc le XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières a été un grand siècle scientifique. Et quand les académies se sont créées, eh bien, elles avaient en priorité des objectifs scientifiques. C'est ainsi que dans la plupart des académies, on faisait des expériences de chimie, des expériences de physique, voilà. Mais au cours du XIXe siècle, avec la spécialisation des disciplines et avec aussi l'explosion des sciences, j'entends par là les sciences dures, oui, c'est l'expression que nous employons, nous, historiens, pour distinguer les sciences dures des sciences molles, qui sont les sciences humaines. Et donc, les académies n'ont pas de laboratoire, elles n'ont pas de moyens financiers pour être sur un pied d'égalité avec un laboratoire du CNRS ou une institution universitaire. Et donc, de fait, les lettres, l'histoire, la philosophie, l'art, etc., toute discipline qui n'exige pas de gros équipements matériels, ont pris de plus en plus d'importance. Mais à l'heure actuelle, en tant que présidente de la CNA, je constate que dans la plupart des académies, on essaie d'inverser la tendance dans la mesure du possible, parce que à lire les communications qui sont proposées, les orateurs qui sont invités, on voit qu'il y a quand même beaucoup de préoccupations d'ordre scientifique qui sont à l'ordre du jour, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, des problèmes d'environnement, des progrès aussi parfois inquiétants des sciences médicales, etc. Et donc il y a parmi les membres des académies, une prise de conscience de la nécessité, je pense, de laisser davantage la parole aux scientifiques pour que, précisément, ils nous fassent partager et leurs espoirs et leurs inquiétudes.
L'Académie des sciences ici à l'Institut est celle qui comporte le plus de membres, environ 300 membres. Justement, les interactions, les relations s'établissent bien avec cette Académie des sciences nombreuses et leurs collègues qui travaillent en répartition sur tout le territoire français.
C'est-à-dire que dans chaque Académie de province, il y a des membres qui appartiennent à l'Académie des sciences ou à l'Académie de médecine qui n'est pas représentée à l'Institut, mais qui est aussi une académie scientifique. Mais ce sont des liens, si j'ose dire, d'ordre personnel. Il n'y a pas des liens d'ordre institutionnel.
Donc le cumul des mandats peut s'opérer, c'est-à-dire qu'un membre de l'Académie des sciences ici à l'Institut peut être membre également de l'Académie de Bordeaux ou l'Académie d'Angers.
Bien entendu, Monsieur Bernard Bourgeois, dont nous avons parlé, bon, qui appartient à l'Académie des sciences morales et politiques, est membre de l'Académie de Mâcon.
Alors, justement, parlons d'une académie en particulier, l'Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux. Je lis, cher Monsieur Brault, que cette académie a été créée par lettre patente du 5 septembre 1712, donnée à Fontainebleau par Louis XIV et enregistrée le 3 mai 1713 par le Parlement de Bordeaux. Alors, les fondateurs étaient les membres du Parlement de Bordeaux, mais ensuite le duc de la Force fut son premier protecteur et Montesquieu Le grand Montesquieu fut élu le 3 avril 1716 et en devint le directeur en 1718. Et puis vous rappelez donc l'année de la publication de l'Esprit des lois. Donc un membre très célèbre, fondateur.
Peut-être le plus célèbre même.
Justement, alors après il y a un passage à vide au moment de la Révolution, comme pour beaucoup d'académies, beaucoup d'institutions françaises.
Comme l'ensemble des académies.
Et ensuite elle revient quand alors l'académie ?
Oh, je pense assez rapidement, elle revient... Au moment du retour, je pense que sous Napoléon Ier, c'était un peu en sourdine. Mais elle revient assez rapidement avec les rois Louis XVIII et Charles X et retrouve son rythme qu'elle ne devait plus quitter puisque pratiquement il n'y a pas d'autres interruptions de notre académie depuis cette date. Même pendant les deux guerres mondiales où je pense qu'elles ont dû continuer peut-être de manière ralentie mais certaine leurs travaux et leurs œuvres.
Et quelle est la particularité de cette académie de Bordeaux qui va avoir les rênes de la prochaine organisation de la CNA 2012 ? Racontez-nous tout cela.
Je ne sais pas si l'Académie nationale de Bordeaux est particulière, mais il y a déjà un premier élément qui mérite d'être signalé. Elle fête cette année son tricentenaire. Et ce n'est pas souvent l'occasion pour une académie comme pour une association de célébrer ce tricentenaire qui est une manière de rappeler, je n'oserais pas dire sa pérennité, mais tout de même sa longévité.
Alors, très bel anniversaire de ce tricentenaire, c'est magnifique.
Eh bien, nous voudrions le faire, n'ayons pas trop de prétentions, j'allais dire fastueux, c'est peut-être exagéré, mais tout de même avec...
À la hauteur de l'événement.
À la hauteur de l'événement et avec beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que le programme que nous avons prévu, tant sur le plan culturel que sur le plan de diverses modalités, est prometteur.
Alors, est-ce que c'est quelque chose qui reste encore dans le secret complet ou pourriez-vous nous en donner, nous en dessiner les grandes lignes ?
Oh, je pense que quand même, il a été communiqué ce programme aux membres des différentes académies, donc ce n'est plus totalement le secret. Je voudrais d'abord rappeler qu'il est placé, nous avons parlé du duc de la Force tout à l'heure, il est placé sous le patronage de M. Alain Juppé, qui est le maire de Bordeaux, car c'est le maire de Bordeaux qui parraine notre académie. N'oublions pas que la monarchie a cédé la place à la République, donc il a fallu adapter les institutions. Ce programme est prometteur, il commencera le mercredi 3 octobre. Il y aura l'accueil du président, enfin le matin il y aura un peu une visite touristique et puis déjeuner des académiciens à la Chambre du Commerce. Alors là, j'ouvre une parenthèse parce que la Chambre de Commerce de Bordeaux a une histoire importante et elle vient de restaurer son hall d'accueil et c'est dans ce hall que les académiciens prendront le repas, n'inaugurant peut-être pas cette salle mais en étant quand même les premiers bénéficiaires. L'après-midi, on aura une partie intellectuelle et peut-être un peu formaliste avec le discours du président de l'Académie qui est Monsieur le recteur Poussou. Je ne suis que le représentant de cette Académie désigné pour assurer la présidence de la Conférence nationale lorsque Madame Jeanne-Marie de Marolles me cédera le flambeau justement lors de cette réunion d'octobre 2012. Ensuite, il y aura un discours du maire de Bordeaux. Et puis, nous aurons la réception de M. Éric Orsenna en qualité de membre d'honneur et la définition du thème de ces journées, conférence sur les défis du XXIe siècle, la mondialisation, les défis culturels. Vous aurez compris que c'est le thème qui animera l'inspiration de toutes les conférences, des communications qui auront lieu. Après cette partie officielle, si je puis dire, il y aura ensuite une pause et ensuite un concert organisé par M. Michel Lapleny. M. Michel Lapleny est un des membres de notre académie que je me plais à présenter, car il est un des représentants des artistes, puisqu'il anime un ensemble de concerts baroques et qu'il devient maintenant très connu, au moins sur la région de Bordeaux, avant peut-être d'atteindre une réputation nationale. Ce concert aura lieu au Grand Théâtre. Alors, le Grand Théâtre, c'est le bâtiment prestigieux de Bordeaux qui a été conçu par Victor Louis, qui est un point de référence à Bordeaux. Ensuite, après ce concert, il y aura un souper dans les foyers. Alors la formule du souper sera adaptée au nombre des membres parce que nous sommes victimes, enfin, un peu du succès de cette réunion et nous adapterons. De toute manière, il y aura quand même une réception dans les foyers à 21h30. Le 4 octobre 2012, qui est un jeudi, alors c'est là où commencent les communications, les entretiens, les défis du 21e siècle, comment Bordeaux et l'Aquitaine s'y préparent. Il faut savoir que quand une académie de province reçoit la conférence nationale de l'académie, elle insiste, semble-t-il, le plus souvent sur son aspect régional. Et à l'inverse, la conférence nationale qui a lieu à Paris, ce n'est pas un thème fatalement national qui est choisi. Alors, les défis, l'introduction devrait être faite par M. Michel Vigneault, qui est justement un scientifique, un géologue, ce que j'aurais tendance à qualifier de très brillant, même si maintenant, il est le doyen d'ailleurs, il est le doyen de notre académie, comme tant de présence à l'académie. Bon, ensuite, alors je passe très vite sur les conférences, défis naturels et techniques, les risques naturels, la vigne et le vin, ça, c'est un thème qu'il est difficile d'esquiver à Bordeaux, il n'y a guère que des problèmes aéronautiques quelquefois qui le détournent, l'énergie, l'espace. Oui, l'espace, nous avons eu un colloque sur l'espace, mais organisé par l'Académie sur le plan régional en 2007. Ensuite, à 13h, nous aurons réception au Conseil régional. Il faut savoir que toutes les autorités locales ont été sollicitées. Donc, après le maire qui est notre parrain, qui patronne notre Académie, là, c'est le président du Conseil régional. L'après-midi, dans les locaux du Conseil régional, la recherche en Aquitaine, par Alain Rousset, la population de l'Aquitaine et ses évolutions, quelle ville en Aquitaine au XXIe siècle. À titre d'exemple, de ville en Aquitaine au XXIe siècle, je voudrais tout simplement citer Bordeaux, qui a l'ambition de devenir en 2030 une métropole qui comprendra 1 million d'habitants, au lieu des 820 000. Je parle de l'agglomération, je ne parle pas de la commune. De 820 000 actuels, je crois que c'est un très très grand pari qui peut être gagné, mais qui est très ambitieux tout de même. Et puis après, il y a d'autres thèmes, le gouvernement des hommes et des territoires, l'information en Aquitaine demain, l'Aquitaine face à la mondialisation et à la déterritorialisation. Là, à 19h, visite de l'exposition consacrée aux réalisations des académiciens, qui sont exposés dans une bibliothèque de la ville. Et puis, le vendredi 5 octobre, alors ça sera l'Assemblée annuelle de la Conférence nationale des académies. À 9h30, 11h, ça sera partagé, enfin, visite du château de la Brède. C'est une manière de rendre hommage à notre grand...
bienfaiteur.
Bienfaiteur, je ne sais pas, mais membre. Enfin, qui l'a illustré, Montesquieu. 11h30, 13h, visite de la SNEGMA. Ça, c'est un hommage qui est rendu à l'activité aéronautique de Bordeaux. Je voudrais faire une petite parenthèse pas trop longue. J'ai tendance à dire que si Toulouse est la capitale aéronautique de la France sur le plan du secteur public, sur le plan du secteur privé, c'est Bordeaux. Il faut savoir que les usines Dassault ont beaucoup d'établissements à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Et puis, en fin d'après-midi, il y aura réception au château Aubryon, qui est une manière de clôturer dans la para ce tricentenaire et ce colloque.
C'est une magnifique façon de faire vivre les enjeux possibles à développer, comme vous le disiez, au niveau des communications, au niveau de l'installation d'industries nouvelles, etc. Et là, on voit que la culture donne la main au développement industriel et économique de la région.
Absolument. L'Académie n'a peut-être pas le don de communication comme certaines institutions contemporaines, peut-être à cause de son histoire. Il n'en est pas moins vrai qu'à Bordeaux, comme ailleurs, je suppose, mais chaque fois que le sujet est abordé à Bordeaux, il y a tout de même un certain respect qui lui est témoigné. Cette discrétion intellectuelle, mais sa richesse non moins contestable sur le plan culturel, lui donne une grande force morale dont elle jouit, mais s'efforce de ne pas abuser.
Et puis une force reconnue par les autorités publiques et politiques, puisque vous parliez de M. Juppé il y a un instant.
Oui, c'est tout à fait vrai, puisque j'ai parlé du conseil municipal représenté par M. Alain Juppé, mais également du conseil régional. Et le conseil régional est une institution très vivante à Bordeaux. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Comme d'ailleurs à Metz, on avait eu également... ce souci de voir que l'Académie était reconnue par ces trois collectivités morales que sont l'autorité régionale, l'autorité départementale et l'autorité communale.
Est-ce que cette reconnaissance se transforme aussi en action et en partenariat ? Oui, alors donc, on peut poser cette question aussi par rapport à l'Académie des sciences, des lettres et des arts de Metz, que vous connaissez très bien, Jeanne-Marie de Marolles. Alors, parce que vous étiez présidente sortante de l'Académie de Metz, racontez-nous.
Oui, quand j'ai pris la présidence de la CNA, j'avais exercé pendant 3 ans le mandat de présidente de l'Académie nationale de Metz. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'Académie nationale de Metz a... Et je pense que le colloque de la CNA nous a aidés parce que ça a été pour nous l'occasion de rencontrer les milieux politiques, aussi bien au niveau de la ville, de la métropole, du département, du conseil régional. Et donc, depuis, nous avons engagé une politique de partenariat avec certaines de ces institutions. Qui se traduit comment ? Eh bien, bon, par exemple, au niveau de Metz, nous avons organisé un colloque sur l'avenir du sillon lorrain, en partenariat avec une autre académie lorraine, c'est-à-dire l'académie de Stanislas, académie de Nancy. Donc là, ce sont des hommes politiques qui sont intervenus. D'autre part, le département de la Moselle, le conseil général de la Moselle, nous demande de participer à l'animation d'un certain nombre de lieux culturels tels que la maison Robert Schumann, par exemple, en y organisant des conférences. Et donc, pas plus tard que dimanche dernier, l'Académie nationale de Metz, en la personne de M. Gérard Noroy, a donné une conférence sur les hymnes qui a été suivie d'un concert par un ensemble messin. Donc voilà des exemples de partenariats entre l'Académie nationale de Metz et des institutions politiques. Et je pense que à l'avenir, ces partenariats sont appelés à se développer. Et nous avons aussi des relations assez étroites avec le gouverneur militaire de Metz, le général Perron, qui est membre d'honneur de notre académie et qui est venu donner une conférence dans le cadre des questions que se posent les Messins, étant donné que l'armée quitte Metz. Et donc, il est venu nous expliquer un petit peu le rôle des gouverneurs de Metz à travers l'histoire. Voilà quelques exemples.
Alors, on peut vous poser la question suivante. Vous avez été la première femme à la tête de la CNA. Est-ce que l'entreprise n'a pas été trop périlleuse ? Est-ce que votre présidence a été bien acceptée par vos amis masculins ?
C'est aux amis masculins de dire si la présidence a été bien acceptée ou pas. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai rencontré que, j'ose dire, de l'aide et de la sympathie, aussi bien à l'Académie nationale de Metz que dans les autres académies de la Conférence nationale. Donc, je crois que, en quelque sorte, c'est un faux problème de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. En fait, nous partageons les mêmes valeurs.
Puisque j'ai la chance d'avoir devant moi une prochaine présidente sortante et puis un président entrant, ma question s'adresse à tous les deux. Est-ce que, au terme de cette présidence de Jeanne-Marie de Marolles en octobre 2012 prochain, est-ce que les intentions, la philosophie, le chemin, les directives de vos présidences resteront identiques aujourd'hui ou est-ce que d'autres caps sont à atteindre en priorité ? Est-ce que des priorités sont apparues au moment de votre présidence, Jeanne-Marie de Marolles, et vous, François Brault, avez-vous l'envie de mettre en place d'autres objectifs ?
Alors la priorité qui est apparue a été de maintenir la publication des actes du colloque parisien dans un contexte financier qui devient plus difficile, il faut bien le reconnaître, pour tout le monde. Donc ce fut vraiment la priorité de ma première année de présidence. Actuellement, ma priorité, ce serait de renouveler le site interacadémique de la Conférence nationale. Donc nous avons un site interacadémique qui jusqu'à présent a été géré avec beaucoup de dévouement par M. Remy, qui a été président de l'Académie d'Angers il y a quelques années. Mais au bout d'une dizaine d'années, et on le comprend fort bien, M. Remy souhaite passer la main. Donc ce site interacadémique va être repris et géré par des membres de l'Académie du Var qui siègent à Toulon. Et il souhaite rendre ce site plus attractif, plus vivant, qu'il permette davantage d'échanges entre les académies et aussi qu'ils servent de support à des publications de nos communications et de nos articles. Donc je pense que mon successeur aura sans doute une réflexion à engager avec nos confrères de l'Académie du Var sur l'évolution du site interacadémique.
Oui, mais c'est donc une action que vous avez commencé à engager sous votre présidence et qui sera poursuivie et dans ce domaine de communication qui sera l'une des thématiques abordées par les équipes de Bordeaux.
Je ne viens pas avec une valise comportant un projet très différent. Je suis l'héritier de Madame de Marolles, laquelle est l'héritière des précédents présidents. Je crois qu'il faut faire une évolution progressive et adaptée aux problèmes du moment et Madame de Marolles vient de nous indiquer un problème qui est très actuel, qui est celui de la communication. Vous remarquerez tout de même que l'adaptation de la Conférence nationale des académies est réelle, puisque vous avez voulu évoquer le problème de la parité des présidents de la Conférence nationale des académies. Pour ma part, je ne pense pas avoir fait la moindre discrimination vis-à-vis de Madame de Marolles. Je me contenterai de dire que nous sommes tout à fait dans l'ère de la société actuelle et c'est tout naturellement, je pense, que nous passons d'une présidente à un président et rien n'interdit qu'à nouveau une présidente soit honorée.
Pour terminer, une question. La place, l'importance de ces académies, au nombre d'eux, vous rappeliez Jeanne-Marie de Marolles.
31.
Alors, la place, l'importance de ces 31 académies dans la vie culturelle, dans la vie scientifique de notre pays, ne s'adresse-t-elle pas qu'à une élite? Si en deux, trois phrases, vous pouviez tous les deux nous donner votre intention et porter comme ça le discours de toutes les autres académies. Je vous charge un peu d'un... Mais je pense que c'est très important pour nos auditeurs qui sont éloignés, qui ne participent pas à ces académies. La place, la vie, l'importance de ces académies dans la vie culturelle et scientifique de notre pays, et elles s'adressent à qui et elles travaillent pour qui?
Toutes nos académies sont des relais, je pense, de diffusion. C'est-à-dire qu'elles permettent, elles produisent certaines connaissances, certes, mais dans le domaine, encore une fois, plutôt des sciences humaines, de la littérature et des arts, et on ne produit pas des connaissances dans le domaine des sciences dures. Mais à tous les niveaux, elles sont des relais de diffusion auprès du public qu'elles souhaitent le plus large possible, évidemment. C'est-à-dire que dans chaque académie, il y a toujours des conférences qui sont appelées publiques ou hors les murs et qui s'adressent à l'ensemble de la population de la ville qui souhaite y participer. Elles sont annoncées généralement par voie de presse. D'autre part, l'Académie nationale de Metz, et je ne sais pas ce qu'il en est de l'Académie de Bordeaux, M. Brault va nous le dire. L'Académie nationale de Metz participe chaque année aux journées du patrimoine. Nous faisons visiter notre local. Les Messins découvrent notre bibliothèque. Ils nous posent des questions et ils repartent en général très satisfaits. Il est évident, malgré tout, qu'une académie est une société intellectuelle et qu'il est évident qu'elle ne peut pas atteindre le public qui se rassemble au Stade de France ou dans des salles comme les Zénith.
La réponse alors du responsable de l'Académie de Bordeaux?
Je partage tout à fait l'opinion de Madame Jeanne-Marie de Marolles. Notre objectif n'est pas de toucher l'ensemble du peuple, mais plutôt d'être une autorité morale, culturelle, au sein de cette société. C'est la raison pour laquelle, du moins à Bordeaux, je ne dis pas que ce sont les meilleurs qui sont élus, mais enfin une certaine élite qui est dans les différentes activités qui sont élues.
Mais justement, vous allez baser votre prochain... J'insiste sur la communication, donc ça veut dire que vous voulez communiquer aussi. Voilà.
Oui, oui, alors nous allons, comment dirais-je, continuer à nous adapter. Je crois que c'est ce qui fait notre force. Oui, tout à l'heure, il a été abordé le problème des parrainages. Alors à Bordeaux, le dispositif est sensiblement le même qu'à Metz. Vous ne m'en voudrez pas, mais je parle que de ce que je connais. Nous y ajoutons le statut des membres correspondants, qui sont souvent des autorités, soit dans le monde économique, social, ce qui nous permet quelquefois de bénéficier de subventions ou quelque chose. Et puis, il y a ce rattachement à l'Amérique qui est quand même très, qui est responsable, qui est propriétaire de notre local, qui l'entretient, à qui nous sommes redevables de beaucoup de choses. Et réellement, nous sentons dans la municipalité actuelle le souci de participer à notre joie et à la fête que nous voudrions instaurer à Bordeaux les 3, 4, 5 octobre.
Nous avons bien retenu ces dates. Dernière question, par rapport aux générations qui arrivent, aux générations montantes, des relations avec l'éducation nationale pour que toutes ces réflexions, ces échanges d'idées que vous nous aviez si bien décrites tout à l'heure par rapport à toutes ces prises de parole et ces débats qui vont être organisés à Bordeaux, puissent être communiquées à ces jeunes esprits.
Elles ne sont pas, si vous voulez, ces relations institutionnelles, mais il y a parmi nos membres, d'éminents représentants de l'éducation nationale, à commencer par notre président actuel, le recteur Poussou, qui est même peut-être connu au sein de l'éducation nationale, sur le plan national. Ce que je voudrais dire dans le cadre de ce tricentenaire, c'est que l'Académie de Bordeaux publiera un ouvrage collectif qui envisage justement, je vous parlais tout à l'heure, des défis contemporains, qui envisagera, en fonction de l'auteur de ces communications, certains types de ces défis contemporains.
Merci à tous les deux. Merci Jeanne-Marie de Marolles, actuellement présidente de la CNA, et à vous, Monsieur Brault, François Brault, vice-président de la même CNA. Eh bien, écoutez, nous allons vous souhaiter une très belle future conférence à Bordeaux. Merci à tous les deux. Merci Jeanne-Marie de Marolles et merci François Brault. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Eh bien, merci à vous, Virginie Crespo. Vous avez eu l'amabilité de me recevoir l'année dernière, à nouveau cette année. Et donc, c'est vraiment très agréable pour nous et aussi, je pense, très porteur pour la Conférence nationale des académies. Donc, un grand merci.
Je m'associe à la reconnaissance que vous témoigne notre présidente.
Merci à tous les deux. C'est au tour de Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques d'évoquer maintenant le rôle, les implications de la Conférence nationale des académies des sciences, lettres et arts. Voici ce que M. Bourgeois a confié à Canal Académie.
Alors, la Conférence nationale des académies est née dans l'idée d'un académicien lyonnais, un philosophe, Francisque Bouyer, qui, à la fin du XIXe siècle, a eu l'idée de réunir en une seule communauté toute la vie académique française. Son objectif était de faire se réunir sous l'égide de l'Institut de France les académies de province. Et un siècle plus tard, un académicien lyonnais, donc à la fin du XXe siècle, un académicien lyonnais, le médecin général Reboul, a lu l'ouvrage sur l'Institut de France et les académies de province que Francisque Bouyer avait publié, je crois, en 1879. Et il a repris ce projet. Il a repris ce projet, membre de l'Académie de Lyon, dans les années 90. Il a pris contact avec d'autres représentants des académies de province. Ils ont été reçus à l'Institut par le président de l'Académie des sciences morales et politiques, qui était le bâtonnier Brunois, et par le chancelier Bonnefous. Je crois qu'un peu après 1990, l'idée d'une structure, si vous voulez, de réunion entre l'Institut et les académies de province a vu le jour, et il me semble que c'est en 1991 qu'a été décidé la création d'une conférence nationale des académies. Le président, le premier président, a été le médecin général Reboul et M. Brunois, le bâtonnier Brunois, a été nommé président d'honneur. En 1994, des statuts ont été élaborés et en 1995, je crois, le journal officiel a publié les statuts de la Conférence nationale des académies avec un certain nombre de principes. Le lieu social de la conférence, c'est l'Institut de France. Les réunions ont lieu annuellement en alternance à Paris et en province, sous forme de colloque. Quatre critères concernant l'insertion des académies de province dans cette conférence nationale. L'ancienneté, en principe, Il s'agit des académies qui ont été créées avant la Révolution française et qui ont été reconnues par des lettres patentes du roi. Ancienneté, deuxièmement, pluridisciplinarité, troisièmement, élection par vote secret et quatrièmement, activité intellectuelle, désintéressée, scientifique, littéraire, etc., suffisante. Alors actuellement, il y a 31 académies, je crois, de province, qui font partie de la Conférence nationale. Celle-ci est présidée actuellement par une universitaire de l'Académie nationale de Metz, Madame de Marolles, et je suis président d'honneur représentant l'Institut de cette Conférence nationale. Je dois dire que les secrétaires perpétuels, les chanceliers de l'Institut, M. Mesmer, le chancelier de Breuil, ont été des artisans très vigoureux de cette unification de la vie académique française. Vous voyez, au moment même où l'université songeait essentiellement à se régionaliser, les académies ont songé à, non pas à se réunir, mais à constituer une véritable communauté académique. Et je pense que c'est extrêmement important. Et sous l'autorité du chancelier Gabriel de Breuil, cette communauté académique française, j'ose dire, est en plein développement. Vous avez évoqué tout à l'heure les colloques annuels. Le colloque organisé à l'Institut de France l'an dernier portait sur la découverte de la Terre. J'étais tout neuf dans cette entreprise et j'ai été très, très admiratif de ce que j'ai entendu. Le travail fait dans les académies de province a été considérable et nous avons passé de très belles journées intellectuelles. En 2012, en octobre, début octobre, le colloque national de cette conférence aura lieu à Bordeaux. Le président Brault, qui est responsable de ce colloque, fait travailler les académiciens sur le thème des grands défis du XXIe siècle. Je suis persuadé que le succès sera aussi considérable que celui qui a marqué le colloque parisien d'octobre dernier.
Il faut dire que certains des académiciens répartis dans les 5 académies qui constituent l'Institut ont aussi des implications dans différentes académies de province et en sont issus.
Ils en sont membres. Je salue la mémoire de quelqu'un qui avait beaucoup travaillé pour cette conférence nationale. C'était notre confrère Laronde, qui est décédé l'an dernier, qui est un animateur de l'Académie delphinoise. Bien sûr, un assez grand nombre d'académiciens de l'Institut sont membres d'académies de province et par conséquent, je vous dis, au moment où l'université a donné le mauvais exemple, parce qu'il était unilatéral, du souci essentiel de la régionalisation, de la diversification, les académies de France ont rappelé par cette entreprise que la diversité et l'unité ne sont pas incompatibles, mais qu'au contraire, elles doivent être pratiquées et développées de pair.
Oui, parce que vous employez le mot de diversité, c'est-à-dire que ce sont des académies qui sont complètement indépendantes les unes des autres et par rapport à l'Institut, on ne peut pas les situer sous le terme de filiale ou sous le terme...
Non, il n'y a pas d'hégémonie d'Institut, absolument pas. Non. Ce sont des relations de pleine réciprocité, avec des responsabilités différentes. Chacun y est soi-même, et en même temps, l'unité est profonde. Mais je pense que c'est toujours comme ça dans tous les domaines. L'universalisation et la singularisation n'excellent que lorsqu'elles sont menées conjointement. La Conférence nationale des académies est une très belle institution, et encore une fois, je suis très très heureux que les chanceliers de l'Institut et actuellement le chancelier Gabriel de Breuil fassent du développement de cette conférence un objectif important. En tout cas, je pense que c'est un magnifique exemple que donnent ici les académiciens français. Chacun y est soi-même, mais dans une communauté véritable et féconde avec tous.
Eh bien, Canal Académie accompagnera, comme elle l'a fait déjà depuis l'année dernière, ce développement que nous souhaitons harmonieux et plein d'échanges entre ces différentes académies. Merci, Monsieur Bernard Bourgeois.